Hashtag le Mag Sport. Avec Loïc Colombier.
Et bonsoir, chers amis sportifs. Bienvenue à l'antenne de Radio Albigès pour votre Mag Sport du 5 juin 2018. Aujourd'hui, au sommaire, nous reviendrons sur la magnifique victoire 29-13 des guerriers castrés qui ont renversé l'ordre établi en croquant l'ogre montpelliérain et en renversant la surpuissante armada financière et d'internationaux héroltaise. Un exploit digne des plus belles pages du rugby hexagonal, un acte de bravoure, une épopée que seule l'Ovalie peut nous réservé. Nous reviendrons aussi sur le Albi Trot Tour organisé par le comité d'animation du SCA qui démarrera le lundi 11 juin 2018, donc lundi prochain, avec comme chaque année deux mots d'ordre, convivialité et esprit sportif. Nous ferons un petit tour aussi à l'SPT Albi avec Kim Caso qui a une bonne nouvelle à nous annoncer, car malgré la relégation de son club en D2, la petite albigeoise vient être sélectionnée pour la première fois en équipe de France militaire pour tenter de conserver le titre champion du monde militaire que les Françaises avaient gagné il y a 2 ans. Mais avant tout cela, on va faire un petit tour au SA. On reviendra après en grand format sur le CO et sur la fête qu'il y a eu sur la place Pierre Fabre dimanche 3 juin, où nous étions en envoyé spécial pour Radio Albigès et le rugby ministère. Mais nous allons quand même, comme je vous le disais, faire un petit tour chez nos amis Jean et Noir, voir les dernières aventures du Sporting Club albigeois. Le SCA profite de ses dernières semaines de vacances avant la reprise le 25 juin 2018. Mais tout le monde n'est pas encore en congé au Sporting, car au SCA, selon le Midol, une ombre tutélaire se fait de plus en plus présente, celle de la DNACG qui, selon le journal spécialisé dans le rugby, vient de mettre, à l'instar de Narbonne et Tarbes, Albi sur surveillance de la DNACG, bien sûr, et du fait de la fragilité de ses comptes. Joint immédiatement par téléphone, et le directeur général Jean-Jacques Vérac a tenu à ne pas céder à l'affolement, nous arguant qu'aucune demande de documents supplémentaires ou même de notification du gendarme financier ne lui avait été faite, et qu'Albi, comme Tarbes et Narbonne, est un des clubs sujets à jouer la montée, il était normal qu'il soit surveillé. Enfin, Rouen, Cognac ou Blognac prétendent aussi à la montée et ne sont pas concernés, ce qui peut quand même porter à confusion. Mais souhaitons que le Sporting sorte vite de l'œil du cyclone de la D1CG, c'est tout le mal qu'on souhaite au club jaune et noir. Concernant les transferts, le DG nous a assuré que malgré les bruits qui donnent Vladimir de plus en plus, voire très proche de Grouillet, il nous a bien fait comprendre que ce dernier était sous contrat et qu'il ne partirait pas. Enfin, pour avoir eu un des nouveaux hommes forts du club grouillétois, du côté de l'ancien capitaine des Mégissiers, on a un tout autre son de cloche et on attend Vladimir avec impatience. En clair, on a droit à une partie géante de poker menteur qui fera tapis, mystère. Enfin, nous, du côté albigeois, on espère que Vlad restera sur les couleurs jaune et noir. Mais nous avons quand même un invité, comme à chaque mag, on essaie de vous faire découvrir un joueur ou de discuter du club avec un des hommes de ce club jaune et noir qui nous tient à cœur. Mais lui, cet invité, il sera bel et bien là à la reprise pour aller chercher, on l'espère, un billet en Pro D2 en fin de saison. Et il nous fait la joie d'être en direct pour nous parler du Sporting. Mister Russe, alias Ruslan Boukérou, notre seconde ligne jaune et noir. Ruslan, bonjour.
Oui, bonjour tout le monde.
Ça va? Les vacances se passent bien?
Oui, ça va, au calme à Albi.
Bon, alors, on t'avait quitté en fin de saison, tout d'abord blessé avec une hernie cervicale. T'en es où? Ça va mieux? C'est en train de se résorber tout ça? Tu vas être bientôt d'attaque pour reprendre l'entraînement?
Oui, ça va beaucoup mieux. L'opération s'est bien passée. Ça a été assez difficile les deux premières semaines suivant l'opération. Mais là, ça se remet petit à petit dans l'ordre. J'ai repris un peu le sport, mais sur vélo, je peux pas courir encore ni faire de muscu, donc j'essaie de m'entretenir comme je peux, et j'ai rendez-vous le 12 juin avec le chirurgien pour voir si je peux passer à l'étape suivante de la rééducation.
D'accord. Alors, dans ton planning, c'est prévu à peu près pour quelle date ta reprise effective de l'entraînement avec tes copains en journée noire?
J'espère participer aux entraînements, du moins à la partie physique, dès le 25 juin, pour tout ce qui est course et musculation. Après, pour tout ce qui...
Oui, alors on a perdu Ruslan. Je pense qu'il a un petit souci de batterie. C'est bien dommage, mais c'est les aléas du direct. Quand on a un joueur comme ça en direct, mais ça peut arriver qu'on ait un petit souci de ligne. On va essayer de le joindre entre-temps. Et bon, on va pour continuer l'émission, parce qu'on ne peut pas attendre que Ruslan nous réponde, puisque ça a l'air d'être compliqué de le rejoindre. On va aller passer au sujet suivant, hein, c'est-à-dire la victoire du CO en finale du top 14, une victoire qui nous a tous grandement fait plaisir et qui a donné du baume au cœur, on va dire, à l'ensemble du territoire, à tout le Tarn, puisque pour une fois, on va dire que tout le monde était fédéré derrière un seul clocher, une seule ville, Castres, qui est devenu le centre du département, l'instant d'un week-end. Allez, Will, jingle CO avec le nouveau tube d'été, Les yeux d'Émilie. Et oui, comme je vous le disais en intro, le CO nous a fait rêver pendant 3 semaines en franchissant des montagnes dites insurmontables par beaucoup et en allant au bout de leurs rêves décrocher le Brennus en s'épaussant face à l'ultra favori, le Montpellier de Moed Altrad, un vrai bonheur pour tout le rugby tarnais. Pour preuve, dans les tribunes officielles du stade, on a vu le banc et l'arrière-banc de l'Haute Vallée tarnaise au soutien au ciel et blanc du CO. Bernard Laporte et M. Martinez, respectivement président et trésorier de la FFR, mais qui étaient tenus par un devoir de réserve, mais aussi l'ancien président du Sporting, Jean-Jacques Castanet, qui, placé à quelques encablures du président de la République, s'est fait étreindre longuement lors de la remise du bouquet par Tomé Opoue, ancien jaune et noir et actuel castré, qui l'en a en prime remercié pour tout ce qu'il avait fait pour lui. Même du côté des politiques, on pouvait voir, pour une fois, l'union sacré, en voyant tous les bois représentés avec pêle-mêle Christophe Ramon, président du département, Philippe Boncarère et Philippe Folio, parlementaire, ou monsieur le maire de Castres, monsieur Bugis. Comme quoi, ce CO-là, avec ses vertus et ses valeurs, est plus que fédérateur. Donc, on aurait bien aimé demander à Ruslan ce qu'il a pensé de ce final. Bon, il me l'avait dit en off et que c'était un super moment. Et on va essayer de le joindre. Ruslan, tu es de nouveau avec nous à l'antenne ?
Oui, c'est bon, désolé, il y a un petit problème technique.
Bon, génial, tu vas pouvoir rebondir avec nous sur la finale du top 14 et cette épopée Castres. Toi, ça a dû te plaire quand même, parce que c'est une équipe qui a dégagé pas mal de valeurs, de combativité, de solidarité. C'est ce qui a fait un peu le ciment en fin de saison du Sporting Club Abigeois. Je pense que tu as dû te retrouver dans ces valeurs-là.
Ah oui, franchement, ils ont été impressionnants hein, quand... C'est sûr que sur le papier, Montpellier était largement favori, hein, avec les joueurs qu'ils ont, des Picamol, des Cruden, des Duplessis, ça, à Castres, ils les ont pas. Ils font avec un gros budget, certes, mais quand même totalement différent de celui de Montpellier. Et là, c'est vraiment l'envie et la détermination qui a fait la différence. Ils ont été extrêmement agressifs en défense, Cocotte a été monstrueux, il a pourri toutes les sorties de balles, et je pense que Montpellier ne s'attendait pas à autant de difficultés, autant d'agressivité de la part des Castrés, et ça les a mis à mal, et à aucun moment ils ont pu mettre leur jeu en place, quoi. C'est impressionnant.
Ah oui, puis que le 11e budget du top 14, on va dire, écrasé, parce que quand même la victoire a été assez large, même si ça s'est joué sur les détails, mais ça a été assez large comme victoire. Ça a été, on va dire, un braquage à Castres, mais fait de haut vol. Hein. Le 11e du top 14, le 11e budget, on va dire, du top 14, qui écrase le second ou troisième budget du top 14, c'est quand même une belle histoire, on va dire.
Ah oui, franchement, il n'y a rien à dire, c'est magnifique, parce que c'est vrai que quand même, Castres va chercher pas mal de joueurs en Pro D2, ils vont chercher des jeunes Français, bon bien sûr, ils ont aussi des étrangers, des joueurs de renom, mais c'est quand même rien à voir avec Toulon, le Racing, Montpellier, enfin, c'est incomparable, donc ce qu'ils ont fait, c'est vraiment, si j'ose dire, historique, quoi, parce que je pense qu'il n'y a pas grand monde qui aurait mis des pièces à partir des barrages sur Castres, et là, franchement... je leur tire mon grand chapeau et on est très contents pour eux, quoi.
Oui, ben, on a vu que le Sporting était au soutien, puisque le club a fait des tweets d'encouragement, des tweets de félicitations après chaque match. On a vu que c'était tout le rugby tarnais qui se fédérait derrière le grand frère du CO. Hein. Puis ça peut vous donner des idées pour essayer de faire un parcours tel pour remonter un Pro D2 l'année prochaine.
Ouais, exactement. Hein. De toute façon, là, c'est sûr qu'on commence à peine à digérer notre échec. Et c'est vrai que quand on voit... Café Castres, bon, notre niveau, hein, à leur niveau,
oui,
à eux,
mais bien sûr.
C'est vrai qu'on se dit que tout est possible, hein, donc cette année, il va falloir la prendre différemment, du début de saison, différemment que la saison passée, essayer de ne pas reproduire les mêmes erreurs et mettre l'engagement qu'il faut pour pouvoir monter, quoi.
Alors on va essayer de revenir un peu sur le Sporting et sur on va dire la discussion qu'on avait avant d'être coupé. Donc tu nous disais que tu allais reprendre, en plus quand même tu as une fin de saison compliquée, bon, tu es privé des phases de finale, hein, un peu comme Benoît Sicard, et vous êtes puni par une blessure, vous ne pouvez pas faire ce que tout rugbyman rêve de faire, c'est-à-dire jouer des matchs couperés, et en plus... J'étais à côté de toi sur le banc dans les 5 dernières minutes, suivre les copains se filer face à Rouen, être à 2 mètres de la ligne, quasiment aux portes de la qualification et sans pouvoir participer, ça devait être quand même crève-cœur.
Ouais, franchement, c'était très stressant d'être sur le banc, effectivement, et de rien pouvoir faire, rien pouvoir apporter à l'équipe, juste regarder ou encourager. Enfin, c'est vrai que c'était un moment difficile à passer parce qu'effectivement, on travaille toute la saison, on s'entraîne dur, il y a des matchs difficiles en hiver qui sont quand même... beaucoup moins entre guillemets sympa à jouer que des fins de finale, des matchs comme ça. Donc ouais, franchement, c'est une période assez difficile, mais voilà, je vais revenir pour la saison prochaine et mettre ça derrière moi et essayer de faire une bien meilleure saison que celle qui vient de passer là.
Et puis en plus, bon, il y a Arnaud Mella qui est passé derrière dès le lundi, 3 jours après, on va dire, cet échec, même si quand même une demi-finale, c'est un beau parcours. Mais bon, on aurait aimé qu'il y ait le petit biscuit à la fin. Un bon supporter du SCA qu'on est, on aurait aimé retrouver les joueurs de Pro D2. Arnaud vous a tous réunis le lundi avec les administrateurs et les dirigeants du SCA pour déjà fixer le cap pour la semaine prochaine. Ça vous a fait du bien, j'imagine.
Ouais, oui, effectivement, c'est vrai que c'était assez rassurant. Hein. On avait peur que voilà, avec cet échec... qu'il y ait encore des problèmes, des changements, des départs. Et en fait, non, ils nous ont vachement rassurés sur l'avenir et sur la saison là qui est arrivée. Avec bien sûr ce même objectif de monter et surtout qu'on ait gardé la même ossature que la saison précédente. Donc avec 80% du groupe, le même staff, donc au moins travailler dans la continuité, on ne repartira pas de zéro, bien au contraire. Parce que la saison dernière, on est vraiment parti de zéro en changeant tout. Et là, au moins, on va travailler dans la continuité et travailler plus en détail pour être performant bien plus rapidement.
Alors, je dirais continuité dans le groupe et dans l'effectif. Par contre, sur le championnat que vous allez aborder, c'est pas dans la continuité puisque la Fédéral 1 élite a été dissoute. Vous arrivez dans la Fédéral 1 normale, on va dire, la Fédéral 1 à papa, à l'ancienne. C'est un nouveau défi, ça, parce qu'il va y avoir quand même pas mal de derbies, des matchs contre des équipes semi-amateurs, des matchs contre des équipes semi-pro, des matchs contre des équipes quasi-pro. Ça va être, il y a un dénivelé de niveau qui est énorme. Ça va être compliqué quand même à apprendre cette nouvelle fédérale.
Ouais, c'est vrai que ça va être totalement différent. Hein. Franchement, c'est vrai que c'était quand même plus intéressant la Fédéral 1 élite. Je pense, parce que ça se rapproche plus du niveau professionnel, à mon avis, mais après, le début de saison, va pas falloir croire que ça va être facile, parce que bien au contraire, justement, hein, comme tu me dis, ça va être des derbies, des matchs un peu plus à l'ancienne, on va tomber contre des vieux briscards qui auront envie de nous casser la gueule. Donc,
ils vont vouloir le scalp Albi.
Ouais, voilà, donc là, si on les prend de haut, je pense que ça va nous faire bizarre, et bien au contraire, il va falloir les prendre... tout aussi sérieusement que des matchs comme la saison dernière contre les Aix-en-Provence et tout ça quoi. Faut les prendre les matchs un par un, là je pense qu'il faut pas trop se projeter sur la première phase, deuxième phase. Enfin, je pense que c'est là vraiment prendre les matchs un par un et avancer tout doucement sans se la péter et sans se sentir fort quoi.
Alors, le seul avantage avec ces derbies régionaux ou même départementaux, comme je pense à un Albi Lavoir qui peut s'imaginer ou un Albi Grouillé, c'est que bon, en début de saison, vous avez un peu souffert du déficit de public, hein, parce que le public était un peu fâché par rapport à la relégation en Fédéral 1 élite. Là, avec les derbies, on risque d'avoir un stadium à chaque fois qui n'est pas plein, mais bien garni. Donc, ça va être sympa quand même, ça.
Ouais, ça c'est vrai. Je pense qu'il va y avoir de l'ambiance, une ambiance différente avec, comme tu dis, des vrais derbies, il y aura les publics voisins et notre public, j'espère, qui reviendra, hein, parce qu'après, bon, on comprend aussi qu'ils soient déçus et qu'ils en aient un peu marre. Donc, mais peut-être que les derbies vont rallumer un peu cette ambiance qui peut faire du bien à toute l'équipe, justement.
Et puis, il y aura un petit côté nostalgie, parce que ces derbies-là, c'est Grouillé-Albi, c'est Lavoir-Albi, c'est des joutes que nos grands-parents, nos parents nous racontaient au coin du feu, et là, on va pouvoir les vivre, voir quelle saveur ça a.
Ah oui, non mais ça c'est clair. Je pense qu'il y aura quelques petites anecdotes à raconter de plus, à mon avis, avec ces derniers. Ouais. Ça va être sympa.
Mais il nous tarde déjà. Bon, on va essayer, on va revenir un peu sur le CO, parce que quand même, c'est un peu les stars de la semaine, avec l'exploit qu'ils ont fait. On va écouter un supporter castré de longue date, hein, qui était sur la place Pierre Fabre, avec les 15 000 personnes qui sont venues communier et faire la fête avec les joueurs. Un vrai moment de bonheur. On écoute Claude, qui est supporter depuis 65 ans du Quatuor Olympique, plutôt. On est avec Claude, supporter du CO. Claude, bonjour.
Bonjour.
Donc, tu es supporter du CO depuis combien d'années?
Pardon?
Vous êtes supporter du CO depuis combien d'années?
Oh ben, moi, je suis né à Castres, ça fait depuis 67 ans.
Ok, donc, vieux de la vieille.
C'est mon âge, voilà, c'est mon âge.
Bon, alors, 5 ans après ce titre de 2013, 4 ans après la finale malheureusement perdue contre Toulon et le remake, on revoit le bout de bois, le bouclier revenir à Castres. C'est un immense bonheur pour toute une ville.
Ah, oui, c'est magnifique. C'est un genre de choses où on n'y pensait pas trop au début de saison parce qu'on était mal barré. Et puis bon, ben voilà, quoi, c'est venu et on était derrière. Et puis à l'arrivée, ben on est là.
Et puis c'est une équipe qui a fait preuve de grande valeur, d'abnégation, de combat. Une équipe qui est le 11e budget de France, qui lutte contre des mastodontes qui arrivent à soulever des montagnes.
Ah ben, c'est-à-dire que nous, on ne joue peut-être pas avec l'argent, mais on joue avec la tête et notre passion. Ce qui fait que on les a attrapés avant, quoi. Et eux, ben, ils sont restés avec leurs sous et nous on gagnait.
Et puis on peut dire aussi un grand merci aux tacticiens, à M. Urios.
Ah mais un grand merci à Thierry Urios, c'est sûr qu'Urios est le jeune du pays, c'est quelqu'un de très fin quoi. Il est très très malin et je me fais penser de ta fin. Quand il a donné la petite tape amicale à l'entraîneur, je me suis dit, tu vois, maintenant l'autre en face, il doit se dire, ah bon, il irait peut-être taper plus fort.
Et dans cette finale, pour le monde à fin, qui c'est qui pour vous a été l'homme du match?
Henri Cocotte.
Ok.
Avec il a été le 10. Enfin, je pense que.
Ils ont fait un gros match tous les deux.
Gros match. Ouais. Ils ont surtout mangé Pinard quoi.
Oui. Et c'était pas de la tarte, hein.
Ouais, bon, il s'est trompé Pinard, ça peut arriver pour un grand joueur. Bon mais là, il n'a pas. Pour un champion du monde, je pense qu'il n'a pas tenu le match qu'il avait à faire, il n'a pas assumé, mais bon, ça arrive à tous les grands joueurs.
Bon maintenant qu'est-ce qui peut arriver de mieux, c'est où?
De faire un bon parcours en Coupe d'Europe. Peut-être pas aller le bout, faut pas imaginer. Mais parce qu'on n'a pas quand même les grands moyens d'eux. Même bon parcours, ça ne se réussit pas.
Bon ben, on va vous laisser. On espère qu'on se retrouve l'année prochaine avec le même épilogue et faire une aussi belle fête.
Avec grand plaisir. Et merci, bonne journée vous aussi.
Bon, comme tu as pu l'entendre, Russe, c'est beau à voir quand même ces supporters qui supportent leur équipe de cœur depuis 67 ans. Bon, on en a quelques-uns, comme ça au Sporting Club Albigeois. J'ai même fait un lapsus en disant un supporter SCA au lieu de dire un supporter SCO. Parce que bon, il faut le dire, on a vu pas mal de têtes connues en Albigeois qui a troqué la tunique jaune et noire pour la tunique ciel et bleu. Parce que bon, là, le Castres Olympique a fédéré tout le peuple tarné. Hein.
Ah oui, franchement, c'est énorme. Là, il doit y avoir de la joie dans la ville et dans toute la région. Hein. Là, ce qu'ils ont fait, ça apporte du bonheur, vraiment, comme ils l'ont dit, à tout un peuple. Donc, on est très contents pour eux et très contents pour leurs supporters. Et c'est vraiment magnifique, voilà, ce qu'ils sont en train de vivre.
Et puis, on peut espérer qu'au mois de juin, on essaye de faire une fête aussi bien au Vigan, peut-être. Ça serait
exactement,
pas mal.
Exactement, c'est l'objectif. C'est l'objectif, là, de faire une grande fête avec tous les supporters et de rendre tout un peuple heureux à notre tour.
On espère que des castrés feront comme les Albigeois, ils viendront nous soutenir, comme on dirait, au soutien d'Aléruc, qui viendront nous soutenir pour pousser derrière nous et qu'on arrive à retoucher du doigt ce Pro D2.
Exactement, ils n'en doutent pas, je suis sûr qu'ils seront là pour nous soutenir. Et si on est tous ensemble et bien unis, je pense qu'on pourra y arriver.
Alors, on imagine que tu connais bien ce joueur de nom, peut-être que tu le connais plus personnellement, parce que le milieu du rugby est un microcosme, mais vous connaissez tous un petit peu. On a eu en interview Ludovic Radosavljevic, Rado, hein, pour
ah,
les...
Ah oui, je le connais, oui.
Ah.
On a joué ensemble en équipe de France moins de 20 ans, on a fait la Coupe du Monde ensemble au Japon en 2009, donc on s'est suivi pendant quelques saisons sur les sélections jeunes.
Je me doutais, je sais que tu as le bras long, tu connais du monde, toi, dans le monde du rugby, j'en étais sûr.
Voilà.
Bah, on va l'écouter et après tu nous feras une petite réaction sur ses propos.
J'ai pas connu la joie de 2013, mais j'ai connu d'autres joueurs. Ouais, c'est vrai qu'on a eu un parcours un petit peu, qu'on a été se chercher surtout sur la fin de saison. On a eu un trou un peu difficile au moment des hivers. La force de l'équipe, ça a été le collectif. On a su. Il faut sortir les doigts du but pour aller chercher la qualification et après il reste 3 matchs à gagner. Donc,
C'était un mini-championnat de le championnat, on va dire.
Ouais, c'était le championnat cette année, mais il était super relevé. Donc, franchement, c'était très dur à jouer. Aujourd'hui, on a un savoure, c'est exceptionnel.
Madame, vous allez le chercher où? C'était quoi le ressort que vous avez fait dans le groupe?
C'est notre collectif qui fait qu'on travaille bien ensemble. J'ai un groupe de copains et on est bien ensemble. C'est un bon point pour tout le monde.
Il y a un timonier, Christophe Orios, c'est vous qui avez organisé.
Christophe, il a son préparé. Il sait sortir les mots pour
nous. Maintenant, l'année prochaine, il va falloir aller chercher de nouveaux exploits pour faire un beau parcours d'Europe.
Pour
l'instant, on est joué et on est sorti. Ça nous fait plaisir aussi de voir tout le monde casté qui était là pour nous accueillir, nous a soutenus. Vous avez gagné la bataille des tribunes au Stade de France, c'est pas rien.
C'est exceptionnel. Les gens de Castres font pour le coup de l'éclat de leur rugby, c'est incroyable.
David a battu Goliath.
Ouais, la rugby, comme ça, bien effectif.
Merci.
Bon, comme tu as pu l'entendre, Ruslan, c'était compliqué à enregistrer tellement il y avait de boucans sur la passe Pierre Fabre dimanche. On a du mal même des fois à entendre Ludorado Vlasevic qui était quand même aux anges de gagner un second titre affilé, puisque l'année dernière il le gagnait avec Clermont et cette année il le gagne avec le CO. Ah, on a reperdu Ruslan, on dirait. Bon, c'est pas grave, c'était déjà bien sympa de sa part d'avoir passé un petit moment avec nous et de commenter, on va dire, cet exploit du CO. Ouais. Alors, pour revenir sur Rado, comme l'appellent les castrés, les supporters castrés, c'est un de ces joueurs sans filtre et comme on les aime et... On espère que l'année prochaine, il continue avec tous ses copains ciel et blanc à nous faire rêver. Bon, on va faire écouter aussi maintenant les réactions sur la place Pierre Fabre, du président, du coach du CO, ainsi que de cadres du vestiaire, pour ne pas les citer, Rodrigo Capo Ortega, Mister Babillo ou Rory Cocotte, le tout sous l'ovation des aficionados.
Mesdames et Mesdames, Messieurs, ici place Pierre Fabre. J'ai le plaisir d'appeler à mes côtés Monsieur le Président du Castres Olympique, Pierre-Yves Revol.
Bonjour à tous, bonjour à toutes et à tous. J'étais hier à côté du Président Macron et lui a l'habitude de parler devant 15 20 000 personnes. J'avoue que pour moi c'est une première parce que même en 2013, je crois que vous n'étiez pas aussi nombreux.
Il est venu du peuple tirer.
C'est impressionnant. Je ne vais pas prendre la parole longtemps parce que ce soir c'est la fête
sur le ministère
et des joueurs. Mais je voudrais simplement repasser un message. Grâce à vous, avec vous, nous avons passé un message non seulement au monde de rugby, mais au monde du sport, je crois à la France entière, celui d'un club qui est capable d'obtenir des résultats sur la base d'un travail professionnel, mais en cultivant des valeurs familiales, des valeurs de fraternité, et non pas comme le clame certains, en faisant du business à travers le monde. Et ceci, c'est évidemment en premier lieu grâce au travail du staff et des joueurs. Mais c'est aussi parce que ça fait partie de la culture de notre club, c'est une partie très forte de nos succès. C'est aussi grâce à vous, grâce au public. Parce qu'hier au Stade de France, vous étiez sans doute, vous êtes revenus déjà, vous étiez 3-4 fois plus nombreux. Et je vous assure que ça a été très très utile pour les joueurs, comme ça a été le cas à Lyon. Je vais leur laisser la parole parce que c'est leur fête ce soir. Mais avant, je vais vous demander, parce que vous avez été extraordinaire à Lyon, extraordinaire hier soir, extraordinaire aujourd'hui, je vais vous demander une chose aussi extraordinaire qui sort d'ordinaire, que vous n'attendez pas. Et vous savez que ce club, il accomplit les plus grandes choses encore, grâce à tout ce que nous a apporté un homme durant 30 ans, un homme qui est décédé il y a 5 ans, vivait là à côté. Et j'aimerais, excusez-moi, je vous montre quelque chose d'un peu exceptionnel. On a le temps de faire la fête après. J'aimerais qu'on partage ensemble une minute de silence à sa mémoire. Merci beaucoup. Merci, président.
Alors, on m'a donné une liste de gens qui vont venir parler. Ça peut tomber sur n'importe qui, les gars. J'espère que vous êtes prêts, d'accord? Alors, je vais appeler près de moi maintenant un garçon. Ben, vous savez, quand on parle d'une équipe, on parle des joueurs, mais souvent, on parle beaucoup de l'entraîneur. L'entraîneur. Ben oui. De Papé, un jeune de Florette avait dû parler de Christophe, il aurait dit oh, Christophe, il est de chez nous. Oui, Christophe, vous êtes de chez nous. Vous nous avez fait rêver. Je vous laisse la parole. Merci.
Non, je serai évidemment pas très long. Sachez une chose, qu'on était tellement, après le mois de mars, un peu compliqué, tellement heureux de faire des phases finales. Pour nous, évidemment, pour le club, ça nous semble être important, mais aussi pour les joueurs, évidemment, mais aussi, on l'a déjà dit, mais je crois que sans une harmonie forte, sans un partage fort avec nos supporters, je suis... c'est pas possible, quoi. Voilà, donc aujourd'hui, on est vachement fiers de ce qu'on a fait, on est fiers du résultat qu'on a obtenu, mais aussi on est vachement fiers de le partager avec vous aujourd'hui. Donc merci pour tout ça.
On me disait cocotte avec le E dans le midi. Je vous demande, madame, mademoiselle, monsieur, d'accueillir monsieur Rory Cocotte. Tout d'abord, chacun de nous sur le plan aujourd'hui, moi je sais honnêtement qu'ils sont tellement contents de voir votre soutien pendant toute la saison. À part ça, tout ce qu'on vous a montré, tout ce qu'on voulait montrer hier soir, c'est tout ce qu'on a laissé sur le terrain. On a passé des moments difficiles dans la saison, c'est sûr. Mais tout ce qui compte, c'est le résultat à la fin. On s'est accroché à la sixième place et on s'est accroché jusqu'à la fin aussi. Et pour finir, je vous remercie chacun de nos coéquipiers parce que on sait, dans une saison, c'est extrêmement dur, surtout le top 14. Ce qu'on a ramené aujourd'hui, le bouquet de bonus, c'est à partir de vous aussi. Merci beaucoup.
Alors, avant que ce bouclier ne vous soit officiellement présenté, il y a encore un joueur à qui je vais demander s'il veut bien, de me rejoindre.
Hein? Alors, il demande le bouclier, fais-le-moi le bien. C'est
ce joueur, il nous a émus aux larmes. Avec le message qu'il a bien voulu vous donner avant le match de Lyon, ce garçon au grand cœur, ce fidèle parmi les fidèles, j'appelle monsieur Rodrigo Cacó.
Merci à vous. Vous êtes énorme, Merci. Merci. Et je ne vais pas faire un long discours. Moi, je ne vais pas préparer les choses. Je parlerai mon cœur, je dis ce que je sens dans les moments. Mais là, je vois un bel drapeau de l'Uruguay. Ça m'a fait plaisir. Pas mal de l'Uruguay. Et je me rappellerai toujours en 2014, quand quand on est rentré après la fête à Toulon, qu'on pleurait, qu'on était triste, on était malheureux. Et quand j'ai parlé, j'ai eu l'opportunité à m'adresser à vous. Et je vous avais promis que bientôt on allait le ramener à nouveau. Et bien aujourd'hui, c'est bouclier, c'est grand, il est ici chez nous.
Pierre Mangagné, à toutes ces celles et ceux qui sont là, on va remettre la musique dans les yeux d'Emily. Et puis après, vous allez voir, on va faire monter les compagnes, les épouses, les enfants, et on va se faire un petit moment tous ensemble de chansons et de danse. Allez, c'est parti. J'ai oublié, pardon. Alors, autant pour moi, j'ai oublié de faire parler un joueur. Il va m'en vouloir. J'espère pas trop. Alors vous allez voir. Si, lui, non. On a fait que ce soit. Attendez. Que ce soit à Lyon ou à Paris, nous avons fait des directs avec sa maman Isabelle et votre maman Mathieu lors du match de Lyon. Avant le match, elle nous a dit « ils vont gagner ». À la mi-temps, elle nous a dit « ils vont gagner ». Et hier encore, elle nous a dit « ne perdons pas, ils vont gagner ». Votre maman était à fond derrière vous. Vous, capitaine Valeureux, vous nous avez régalé. Je sais que hier, il y a eu des moments d'une grande intensité. Merci encore pour tout ce que vous avez fait, vous et tous les autres. Je vous laisse la parole, Mathieu.
Un grand merci à vous qui êtes venus nombreux à Paris et tous ceux qui êtes restés ici. Voilà, on a vécu quelque chose de grand et vous nous avez donné beaucoup de force, donc merci à vous et encore continuez. Merci.
Merci Mathieu. Alors...
Après avoir écouté et essayé de vous retranscrire au mieux la joie de toute une ville, même je dirais même de tout un territoire, on ne peut que passer au sujet suivant avec... le véritable hymne des vestiaires castrés, en transition, qu'est devenu les yeux d'Émilie. Je sens que ce son, il va tourner dans tous les bars de la sous-préfecture tout l'été. Hein. C'est bien parti. Allez, maintenant, passons aux cousines manchots hein, qui jouent avec leurs pieds, les filles de l'ASP Talbi et leur goleador et enfant du pays, Kim Cazot, qui a une très très bonne nouvelle à nous annoncer. Nous sommes avec Kim Cazot de l'ASP Talbi, qu'on ne présente plus. Kim, bonsoir.
Bonsoir.
Donc bon, on imagine que la semaine qui s'est écoulée a dû être un peu compliquée pour toi, puisque bon, ton club formateur, ton club de cœur et le club où tu as toujours joué vient de descendre en division 2 et ça a été, j'imagine bien, une très très grosse désillusion personnelle et collective pour toi.
Oui, c'est sûr. Après, j'étais pas sur Albi cette semaine-là, donc je pense que ça m'a fait du bien de couper avec ça. Après, le retour à la réalité, comme on dit, fait mal. Donc après, c'est pas fini. Il faut partir, il faut retourner travailler, il faut partir de l'avant et j'espère qu'on fera tout pour... faire remonter le club en deux l'année prochaine.
Bon, donc quand t'as tes mots, tu t'inscris quand même dans la continuité. Tu es toujours avec, on va dire, la tête et les pieds ancrés à l'SPT.
Pour l'instant, oui, c'est sûr.
Bon, c'est une bonne nouvelle pour nos auditeurs. Donc le but de cette interview, de notre appel, c'était aussi un autre sujet, puisque comme tu disais, tu n'étais pas là la semaine dernière en terre albigeoise, et pour une très très bonne nouvelle, puisque tu étais en stage à Fontainebleau, tu m'arrêtais si je me trompais, pour l'équipe de France militaire avec... pour but et pour ambition d'être sélectionné pour essayer de faire la Coupe du Monde militaire au Texas. Bon, il en est quoi ? T'as été retenu à les 23 ?
Ouais, on était 23 du coup pour le stage et ils en retenaient que 21. Donc,
d'accord.
Ouais, j'ai été retenu pour partir au Texas, effectivement.
Donc bon, c'est une très très bonne nouvelle. Après avoir goûté à l'équipe de France B, maintenant tu goûtes à l'équipe de France militaire. Ça te permet aussi de peut-être passer un cap psychologique et technique, de côtoyer quand même des joueuses qui ont un sacré niveau, on va dire.
Oui, oui, c'est une très bonne nouvelle. Après, c'est sûr que je pense que autant humainement que footballistiquement, ça m'a apporté. Et puis, je pense que ça tombe à pic parce que voilà, on n'a pas passé forcément une bonne saison. On finit pas forcément. Donc, je pense que pour rebondir et repartir de l'avant, je pense que ça peut être que positif.
Alors, comment ça se passe un peu ces rassemblements en équipe de France? Ça doit te changer un peu de la routine, de l'aspect été?
Ah oui, oui, ça change, oui, effectivement. Déjà dans le contenu, c'est déjà énormément différent. Après, dans l'approche de l'entraînement vis-à-vis des joueurs et tout ça, c'est aussi extrêmement différent. C'est un autre niveau, c'est un niveau au-dessus. Et voilà, après, ça fait du bien de côtoyer ça, ça fait du bien d'y goûter et de s'y frotter. Et j'espère y rester encore longtemps.
Alors, cette Coupe du Monde au Texas, ça se passe de quand à quand? Quels ont été les objectifs qui ont été fixés par le coach?
Alors du coup là on repart en stage à Fontainebleau du 16 au 20 juin et on décolle le 21 pour partir aux États-Unis au Texas, donc on a le premier match le 23 et après on enchaîne tous les deux jours et après si on est en finale on joue le 5 la finale, donc voilà, pour un retour le 6 à Albi.
Ok, et les objectifs qui ont été affichés par le staff, c'est la gagne, conserver le titre, hein?
Ouais, c'est la gagne bien sûr. Après elles ont joué la Coupe du Monde il y a 2 ans et elles l'ont gagnée, donc ça n'a jamais été fait par une nation de gagner 2 fois la Coupe du Monde d'affilée, donc leur objectif c'est de gagner effectivement.
Bon, un joli challenge.
Donc on fera tout pour.
Ouais, un joli challenge que tu as essayé de relever et de porter en même temps haut les couleurs d'Albi, on espère.
Effectivement, ouais.
Bon, eh bien Kim, on va te laisser puisque on sait que tu as des gros impératifs dans les semaines à venir, on va pas te déconcentrer plus longtemps et on espère pouvoir te suivre au plus près du Texas. Et si tu as des nouvelles à nous faire passer, n'hésite pas à nous les faire passer, on sera très heureux Radio Albigeoise de faire suivre l'épopée entre petites albigeoises aux États-Unis, en espérant que tu nous ramènes la breloque fin juin, début juillet.
Merci beaucoup.
Au revoir.
Au revoir.
Allez, on souhaite le meilleur à Kim Hurley et surtout on espère que la saison prochaine, on pourra encore et encore la voir sous les couleurs rouge et jaune. Quant à l'avenir du club et de l'aspect Albi, il s'inscrit avec Patrice Garrigue puisque ce dernier présentera aux joueuses et aux dirigeants son projet de club ce soir à 18h30, donc ce mardi 5 juin. Et donc on en saura bien plus sur quelle sera la tournure que prendra l'équipe l'année prochaine, quels vont être les objectifs et les ambitions du club albigeois, en espérant les revoir la saison prochaine en Division 1. Mais bon, ne leur mettons pas trop de pression et on va faire les choses step by step et attendre de voir comment se construit cet avenir, espérons-le, radieux. Allez, maintenant, on va passer à nos breaking news. Et oui, une petite breaking news avec le Albi Trot Tour. On va écouter M. Chartrou nous faire la présentation à mon micro, donc micro de Radio Albigès, et celui de Laurent Batigne de Radio 100%.
Ce qui change pas, c'est qu'on a toujours 24 équipes engagées, donc à peu près 120 participants. Ce qui change, c'est le tracé des étapes, puisque cette année, on va partir les 4 étapes en ville, les 2 premières étapes, on va partir et arriver place de la Pile. La 3e étape, c'est le contre-la-montre. Cette année, on va le faire contre-la-montre par équipe et qu'on va faire sur la piste de karting du circuit d'Albi. Pour en même temps essayer de faire une petite après-midi portes ouvertes pour l'école de karting qui va débuter incessamment sous peu. La 3e et la 4e étape, donc là, on nous revient place la Pile, départ arrivé place la Pile. Et la 5e étape cette année, qui est une étape marathon, qui va partir de la place de la Résistance, je pense, à la gare Albi-Madeleine, et qui va arriver au stadium. Oui. Donc là, ils font. Les étapes en moyenne font 1,7 km, 1,8 km, et là, celle-là fait 3,2 km, 2 ou 3. Quoi. Et avec arrivée, comme chaque année, sur la cendrée du stadium, voilà, et devant les tribunes. D'accord. Et après, bon, ce qui ne change pas, remise des prix et repas de gala auxquels on invite tous les enfants et leurs éducateurs le dernier soir sous le chapiteau Bodega du stadium.
Les dates.
Avec oui. Les partenaires, ouais. Bon, après, les dates.
Les dates, ouais. Et puis si on est du public et qu'on veut venir voir, on se met où, comment ça se passe?
Là, de toute façon, bon, les dates d'abord, c'est du 11 au 15 juin, du lundi 11 au vendredi 15 juin. Pour les spectateurs, de toute façon, les circuits en ville seront balisés, donc les gens se mettront autour du parking. Ils peuvent avoir aussi le plan de toutes les étapes sur la plaquette publicitaire que nous éditons. que nous mettons en vente aussi, puisqu'elle donne droit au tirage d'une tombola qu'on organise chaque année avec ses plaquettes.
On peut encore participer ? Il y a des clubs qui peuvent encore
Là maintenant, pratiquement pas. On est pratiquement au complet, sauf si, comme ça s'est produit déjà l'an dernier, il y a une défection au dernier moment d'une équipe. Mais bon, les clubs, on a quand même envoyé à tous les clubs de l'agglomération albigeoise l'invitation. Et les lettres, bon, un peu comme à chaque fois, les gens, ils répondent pas, ils oublient, est-ce qu'on l'a envoyé trop tôt ou pas. Bon, on a intérêt, mais enfin, le fait est, c'est que quand même, on a suffisamment d'équipes et suffisamment d'inscrits.
Voilà. C'est une manifestation que vous avez fait renaître de ses cendres avec le comité d'animation. Maintenant, c'est une affaire qui roule, c'est une manifestation, on va dire, pérennisée.
Oui, si on veut. Enfin, c'est la 4e édition, donc déjà, c'est pas mal, mais on l'avait fait renaître, en fait, 50 ans après, puisque ça se faisait dans les années 60, donc ça fait plus de 50 ans.
Comment vous est venue l'idée de faire renaître cette manifestation, on va dire, ancestrale, interreligieuse ?
Ben, disons que c'est dans les discussions au café du matin au stadium, avec les bénévoles. J'avais au départ retrouvé des photos, puisque je l'avais fait en 1960, des photos de l'époque, puis on avait retrouvé des photos sur lesquelles étaient certains bénévoles du Sporting, et puis de discussion en discussion, de fil en aiguille, bon, Rénal, le président, nous a dit ce serait peut-être bien de le refaire maintenant. Donc on a accepté, on a dit pourquoi pas au silence.
Et il y a d'autres associations maintenant qui sont agrégées à la manifestation, qui vous soutiennent, qui vous aident, qui viennent mettre la main à la pâte ?
Non, là c'est vraiment le comité d'animation, c'est les bénévoles du comité d'animation qui font ça depuis 4 ans et qui bossent. Voilà, mais là, dans notre groupe, il y a suffisamment de gens qui bossent. Et puis, pour preuve aussi, même si, en gros, j'étais l'organisateur au début, mais l'an dernier, je ne pouvais pas être là, bon, il y a tout de suite quelqu'un, la personne Michel Bergon, qui a succédé, qui a pris en charge l'organisation. Et puis, tous les bénévoles qui participent, bon, sont tous d'accord pour bosser. Et voilà, ça bosse énormément, on ne se fait pas de soucis de ce côté-là. Pour l'organisation, il n'y a pas de problème.
Bon, maintenant...
il faut quand même dire que quand Rénal avait balancé l'idée de le faire, bon, là, il fallait, puisque maintenant, c'est beaucoup plus compliqué qu'à l'époque, qu'il y a 50 ans, on a proposé ça à la mairie, qui a tout de suite été d'accord, et donc qui est co-organisateur avec les bénévoles de la manifestation, puisque la mairie met à notre disposition ses installations, son matériel, et le personnel du service des sports qui nous aide à tout organiser.
Bon, maintenant, il manque plus de temps pour que ces manifestations soient complètement réussies.
Ouais, bon là, le beau temps, jusqu'à maintenant, ça s'est pas trop mal passé. Il y a 2 ans, on a eu quelques soucis. Une demi-heure avant la course, il tombait des trombes d'eau, mais après, bon, le soleil est arrivé dès qu'on a commencé, donc s'il fait beau, et puis on le fait au mois de juin, donc en principe, il fera beau.
Bon, mais restez sur une note positive, merci.
Ouais.
Allez, venez nombreux soutenir la jeunesse albigeoise, ils le méritent, et aussi un grand bravo au comité d'animation SCA pour avoir fait renaître cette manifestation mythique en albigeois. Sur ce Maxport touche à sa fin et sera réécoutable en podcast sur les réseaux sociaux et sur nos ondes à 18h30, nos ondes bien sûr 95.4, 104.2. Merci à Will pour la technique, en dédicace à cette émission à ma grand-mère qui je dois beaucoup dans la construction de la personne que je suis et qui mène son dernier combat, je pense fort à toi. Sur ce, je vous donne rendez-vous pour de nouvelles aventures sportives vendredi, je vous dis à Desias et je finis en disant encore un grand bravo le CO, vous l'avez fait les gars, vous avez été énormes.